C'est deux minutes pour explorer chaque matin sur France Bleu Maine. C'est l'association Maine Science qui nous explique le monde dans lequel nous vivons. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu.
Parlons du portrait robot. Est-ce qu'il est encore de mise?
Alors, un portrait robot classique, tout le monde voit à quoi ça ressemble.
Oui.
Et ça ressemble plus ou moins à la face de la personne dont le souvenir est le modèle. Pour l'établir, les témoins doivent se remémorer les caractéristiques physiques d'un individu, parfois seulement entreaperçus dans des conditions inadéquates de lumière, d'angle ou d'attention.
Donc le facteur humain, il est prépondérant dans l'élaboration du portrait robot. Avec évidemment toute sa subjectivité.
Ah oui, à tout niveau. Il dépend des capacités de mémorisation du témoin, à plus ou moins long terme, de ses aptitudes à retranscrire ses souvenirs et aussi du lien de confiance accordé au portraitiste. Portraitiste secondé aujourd'hui par des logiciels et un choix pléthorique de chaque partie du visage, sans toutefois garantir plus d'efficacité.
Comment est-ce qu'on peut être sûr de la fidélité du portrait par rapport à la personne recherchée?
À la fin de la réalisation, le travail du portraitiste est noté sur 10 par le témoin. Suite de quoi, le portrait peut être retravaillé pour en améliorer la qualité. Alors, le talon d'Achille de cette technique demeure en la fidélité des caractéristiques physiques enregistrées par le ou les témoins oculaires.
Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre d'affaires qui sont résolues grâce à cette technique?
Eh bien non. La première arrestation qu'on lui doit est celle du meurtrier de Janet Marshall au milieu des années 50, soit quelques années après son adoption par les services de police. Elle a connu son heure de gloire dans les années 90, mais l'affaire de Guy Georges a mis en évidence ses limites et même sa contre-productivité potentielle. Le portrait robot établi par l'une de ses victimes décrivait un homme type maghrébin à peau cuivrée, si bien que lorsque les enquêteurs l'arrêtent dans une autre affaire, ils ne le reconnaissent pas, ils relâchent.
Bon, aujourd'hui, et puis on peut le constater, ne serait-ce qu'en allant dans le centre-ville du Mans, on a de plus en plus de caméras de surveillance.
Ouais. Aussi, le portrait robot n'est utilisé souvent qu'en dernier recours et diffusé principalement dans les enquêtes de voisinage. Le portrait robot génétique a lui le vent en poupe. Cette fois, c'est l'ADN prélevé sur place qui livre, selon un taux de probabilité, les informations sur la personne recherchée. Sexe, couleur des yeux, des cheveux, origine bio-géographique, prédisposition à la calvitie ou tache de rousseur, couleur de peau, taille, corpulence, âge. Seul le témoignage oculaire peut encore affiner la description avec les cicatrices, grains de beauté ou autres marques distinctives. Mais demain, si un robot commet un crime, comment pourra-t-on établir alors son portrait?
Et on y tend de plus en plus vers les humanoïdes. Rendez-vous sur francebleu.fr pour réécouter cet épisode de 2 minutes pour explorer avec l'association Maine Science.